Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
Pour nous texter, 418-670-9098, ça assurément pas une bonne nouvelle, là, mais il faut en parler. Hein? Fait qu'on va percer l'abcès. Juste vous dire, OK, j'ai devant moi une statistique qui fait mal. Depuis janvier 2019, 431 200 emplois ont été créés au Québec, tous secteurs confondus, à l'exception des travailleurs autonomes. Or, cette croissance est majoritairement attribuable au secteur public. Mon petit doigt me dit que c'est pas une très bonne nouvelle. Vincent Gelozeau, professeur à George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Justement, ce que je suis en train de lire provient de l'IEDM.
Écoute, t'as seté la table parfaitement. On peut terminer ça là. Hein?
Ben, c'est alarmant, pas à peu près, mais il faut en parler parce qu'il faut que ça arrête. Mais en même temps, on a déjà parlé maintes et maintes fois. Mais là, je veux dire, on s'en va où là avec ça, Vincent?
Bon, écoute, on va commencer avec un pot de fleurs, là, parce que les gens vont toujours dire « Ah, vous n'êtes pas posé. » Il y a des emplois publics. Vous n'êtes pas nuancé. Donc, on va commencer avec le disclaimer pour tasser un peu les trolls de la conversation. Il y a un secteur public qui a une justification, puis cette justification-là, c'est les choses que la société civile ne peut pas faire ou que le marché ne peut pas faire. Mais au-delà de ça, par contre, au-delà de cette espèce de fondamental, tu peux avoir trop de secteurs publics, puis là, que ça devienne un boulet pour la croissance économique. Et quand tu regardes un peu les études sur c'est quoi la taille optimale du secteur public au Québec, on l'a dépassé, ce qui veut dire que les emplois publics, en termes de nombre d'emplois qui sont liés au secteur public, est beaucoup trop élevé. Et ça prive le secteur privé de travailleurs. Donc, tu alloues efficacement des ressources et ça ralentit la croissance économique, ça ralentit l'investissement. Et au Québec, la proportion est absolument importante. Déjà, on parle de plus d'un quart de la main-d'œuvre au Québec, généralement, qui travaille dans le secteur public, mais plus de la moitié de la croissance des emplois. Donc, à quelque part, le privé va être celui qui va devoir payer pour ça.
Ben, c'est
et dans
ça,
la mesure que...
Il faut que ça se paye, ces salaires-là.
Ben exactement. Puis je vais te déprimer un peu plus.
Bon.
Ce qui n'est pas mentionné dans l'étude, puis ça, c'est parce que là, c'était la raison que j'ai lancé les fleurs avant, c'est parce que le pot s'en vient. Quand tu regardes la rémunération du secteur public, et là, tu te dis, OK, on va prendre Vincent, puis on va le cloner, puis on va le mettre dans le public. C'est le même Vincent, il n'y a rien qui a changé à propos de lui. La seule différence entre lui et l'original, c'est qu'ils travaillent dans le secteur public. C'est la seule différence, la même expérience, la même éducation, le même tout. Ça, c'est une manière de savoir, est-ce que tu as une prime salariale de travailler dans le public qui n'est pas liée à ta productivité fondamentale comme travailleur? La réponse, c'est qu'au Québec, oui. Généralement, on trouve des écarts salariaux, toutes choses contrôlées pour l'âge, l'éducation, la formation, le secteur d'activité, peu importe comment tu regardes. Les primes salariales sont quelque part entre 3 et 12 % relativement aux comparables. Mais ça veut dire que c'est une surtaxe qu'on a à payer, non seulement en termes de la taille du secteur public, mais aussi pour chaque travailleur individuellement. On surpaye relativement à la productivité qu'il y avait. Si le public était capable de nous fournir des services dans la mesure qu'il augmentait la productivité de l'économie, il n'y aurait pas d'écart entre les deux. Et là, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment un drag ou un boulet pour la croissance économique au Québec, la taille trop importante du secteur public.
Bon, est-ce que ça, là, c'est fait consciemment ou inconsciemment? Je m'explique. Est-ce qu'on fait ça de façon consciente en se disant, ben, quand on va sortir les stats, on va dire que ça va bien, regardez, le taux de chômage est bas, on fait virer l'économie, ou on le fait inconsciemment, c'est-à-dire on a tout simplement perdu le contrôle puis on invente des postes au public sans s'en rendre compte?
C'est plus que ça fait partie d'une manière de faire de la redistribution pour des groupes d'intérêt qui sont bien importants. Donc, si, par exemple, tu vas essayer d'encourager le domaine artistique, ben, tu emploies des gens dans le ministère de la culture et du développement culturel au Québec. Si tu veux donner plus de subventions dans le ministère, dans le domaine de l'industrie, donc tu fais du Pierre Fitzgibbonisme, il faut que tu embauches des gens dans le ministère de l'économie / industrie / peu importe les noms qu'on leur donne à la saveur du moment. Mais c'est une forme de redistribution, mais c'est une forme de redistribution surtout pour favoriser les chances de réélection des gouvernements. Oui.
C'est conscient, on le sait que les répercussions vont être positives. Si on se compare, le Québec par rapport aux autres provinces, on est-tu pas si pire? On fait-tu comme les autres? Ou nous autres, on est les champions d'engager au public?
Ben écoute, on est rivalisé par des provinces, des champions économiques comme l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick qui sont des champions de la croissance. Sarcasme ici. En fait, on est toujours comme pas mal une régularité en histoire économique canadienne. Le Québec est toujours dans le fond du peloton à égalité avec les provinces maritimes. Donc, c'est à peu près le même ordre de le palmarès, si tu veux, c'est le même palmarès que pour la croissance économique. C'est la même chose pour la taille du secteur public. Puis je pense que c'est le temps qu'on mette sur la table ce qui n'est pas l'air d'être présentement très discuté, mais que c'est le temps de réduire les effectifs à tous les paliers pour réduire la pression sur les finances publiques. Ça veut dire identifier pas juste des fonctionnaires, parce que là, il y a une définition large de fonctionnaires, puis il y a une définition mince de fonctionnaires. Donc, le secteur public versus les fonctionnaires, c'est toujours... Il y a beaucoup d'obfuscation dans ça pour cacher un peu la taille réelle du secteur public. Mais ce qu'on devrait faire, c'est aller programme par programme et dire qu'est-ce qu'on peut se débarrasser entièrement. Puis moi, celui que moi je répète constamment, c'est le ministère du Développement économique avec Investissement Québec et toutes les agences qui s'y apparentent, distribue les petits papiers roses, puis licencie-moi tous ces gens-là dans ces agences-là qui... en fait, on a appris récemment qu'Investissement Québec sous-performe relativement à des bons de trésor, ce qui veut dire qu'on aurait été mieux de pas leur donner de l'argent puis le mettre sur la dette. On aurait réussi, on serait en meilleure santé fiscale si on avait fait ça que si on leur avait donné l'argent pour essayer d'encourager le développement économique. Tout bonnement, éliminons entièrement ce ministère-là et les agences qui s'y ressemblent et passons ça en baisse d'impôts directement. Ça devrait avoir déjà un bon point de départ.
Dire qu'il faut réduire la taille du secteur public, c'est de la théorie, là. Mais mettons qu'on passe au côté pratique de la chose. Avec la puissance syndicale qu'on a au Québec, c'est-tu réaliste de penser qu'on peut faire ça?
Bien, le problème, c'est que si on ne le fait pas maintenant, on va devoir le faire plus tard. Puis généralement, quand tu fais ça dans des moments de crise, ça fait toujours plus mal, puis c'est toujours moins réfléchi dans un moment de crise que c'est dans un moment où est-ce qu'on voit la falaise arriver, mais on a le temps de ralentir l'auto, de tourner la direction. Mais,
mais le syndicat, lui, il verra pas ça. Là. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans sa réalité à lui, il comprendra pas ça.
Bien, c'est là qu'il faut aussi, à un moment donné, présenter des offres sincères. Puis je pense pas que c'est en leur disant bon, vous allez perdre des membres. On va licencier des gens, mais c'est de dire, écoutez, chaque dollar de réduction de la masse salariale dans le secteur public va venir avec des baisses d'impôts équivalentes. Donc, les membres vont bénéficier d'une certaine manière. C'est un peu ce qui s'est fait, par exemple, en Irlande. Donc, on a dit, on va faire une grosse réforme, puis ça va affecter beaucoup vos membres, mais on comprend qu'il faut vous coopter dans la réforme, donc il y aura aussi... telle autre réforme du marché du travail ou de la fiscalité qui va s'accompagner de telle forme à ce que la réforme soit pas dramatique pour vous. Puis il faut comprendre quand même qu'il y a des gens dans le public qui ont fait des carrières là puis que ça se réarrange pas d'une nuit au lendemain. Il faut, t'sais, on essaye de rendre le processus plus doux, si tu veux, d'une certaine manière. Mais ça se fait faut le faire avant d'arriver au précipice, mais présentement, je vous dis que si on continue d'aller à la vitesse qu'on va, on va se retrouver dans une situation où il va falloir faire une thérapie de choc, puis couper massivement et le faire de manière peu réfléchie, et ça va être beaucoup plus souffrant que faire l'approche que moi je propose maintenant d'être plus posé. Il n'y a personne qui veut faire une Argentine ici, mettons.
Non, exactement, mais je ne sais pas si on s'en rend compte parce que, je ne sais pas, des fois, je trouve qu'il se passe de quoi à gauche, mais on va regarder à droite. C'est plus rassurant de regarder à droite, faire semblant qu'à gauche n'existe pas. Hey, mais là, je vois que le temps file, Vincent, mais j'ai envie de te demander. Là, c'est pas de façon émotive, OK? Mais selon un toi comme économiste, puis je sais que t'aimes pas être dans le jugement des fois, mais bon, je vais voir ce que tu vas me répondre. Est-ce que la CAQ aura été, à la fin, là, ben, tu sais, on est presque à bout de mandat, là, il va y avoir une autre campagne électorale, puis on verra pour la suite des choses, mais est-ce que la CAQ aura été le pire des partis pour ça, pour le fait qu'on a engagé, tu sais, le fait qu'on finalement, c'est un peu superficiel, là, notre économie, qu'on engage beaucoup au public, ou, somme toute, c'est pas le pire, on a déjà connu pire avec un gouvernement que je sais pas qui, là, que tu pourrais me dire. Est-ce que c'est la CAQ qui est le pire, selon toi?
Écoute, quand moi je vois la CAQ, ce que je vois, c'est le Parti québécois. Mais j'ai toujours dit que le Parti québécois, c'était le parti d'une bonne idée. La CAQ, c'est le Parti québécois moins cette bonne idée-là. Je pense qu'on sait tous c'est quoi l'idée dont je parle. Oui. Le reste, c'est que des mauvaises idées. C'est un peu la manière sarcastique que j'ai à le dire. Donc, on a eu vraiment la pire version possible du Parti québécois sans la meilleure partie. Et ça voulait dire du nationalisme économique qui nous a coûté très cher en termes de dépenses publiques. Ça nous a coûté très cher en termes de déficit. Honnêtement, on avait fait un palmarès à l'Institut de la performance fiscale de tous les premiers ministres depuis Adélard Godbout, donc depuis 1939, en fait. Et M. Legault est dans le bas du palmarès. Dans le top du palmarès, il y a Lucien Bouchard, Jacques Parizeau et Philippe Couillard.
Wow.
Et je pense que le contraste avec M. Couillard, c'est le plus parlant ici, parce que malgré les lignes de com' de commentateurs médias montréalais qui n'ont aucune connaissance économique, qui ont parlé d'austérité pendant des années, ce que M. Couillard a fait, c'est une des meilleures choses possibles en termes d'ajuster les réformes. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit on va avoir la croissance économique, les dépenses publiques vont augmenter à la même vitesse que la population et l'inflation. Donc, c'est une règle qui fait en sorte que l'État grossit un peu moins vite que l'économie en général. Et ça, c'est une excellente chose comme règle, parce que ce que ça a fait, c'est que ça a juste changé un peu la trajectoire. Ça n'a pas coupé les dépenses de manière absolue, ça a juste ralenti la vitesse de croissance des dépenses. Et ça, c'était suffisant sur 4 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire, mais aussi à garder. Il n'y a pas eu d'hécatombe au Québec. La qualité de l'éducation n'a pas explosé.
Même si on prétend le contraire. Quand on en reparle, là, on dit que c'était un moment fou de notre époque. Là.
Exactement. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas... Moi, je défendrais des coupures absolues. Mais ce que M. Couillard avait fait, ça donne un beau contraste. C'est que même avec des réformes posées, on peut accomplir d'importantes choses. Et la CAQ a décidé que la version modeste de la discipline fiscale, celle de M. Couillard, c'était beaucoup trop intense comme discipline fiscale. Et pour ça, je pense que M. Legault et la CAQ vont rester comme définitivement sur le plan fiscal. Les autres affaires, je laisse ça à d'autres personnes, mais sur le plan fiscal, définitivement le pire parti qui a été en charge des finances publiques au Québec, parce que c'était, comme la vieille expression, il y a des marins qui sont débarqués au bord. Et ils ont dépensé sans compter. Le problème, c'est que c'était pas leur portefeuille, c'est le portefeuille d'une autre personne.
Et Dieu sait qu'en plus, François Legault aime rappeler qu'il était comptable. Vincent Gélozo, merci beaucoup, professeur à John Jameson University. On se retrouve la semaine prochaine avec JC.
Comme disait Dunlop à McCracken, quand j'ai le temps.
On s'en va à pause.
Ouellette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.